Bonjour David, bonjour à tous. La Châtillonnaise, maison de retraite de Mauléon, sera livrée dans moins de 6 mois. Rien à voir avec l'existante qui date des années 70. Le projet de rénovation de la psychiatrie sur l'ancien site de l'hôpital de Thouars jouera-t-il en faveur d'un SMUR toircé? Le maire, en tout cas, l'espère. Le job dating du Bocage Bressuré demain à Bocapol avec une nouveauté majeure, un job dating inversé. La 3e édition de la Cité de la Jeunesse et des Métiers part en live. Ce vendredi, un événement destiné aux 11-30 ans afin notamment de mettre en lumière le réseau des ARJ du territoire de l'Aglo de Bé. Beaucoup d'émotions samedi dernier au musée de Bressuire pour le vernissage de l'exposition consacrée à Claude Bertrand, décédé tragiquement il y a maintenant quelques mois. Quant à la météo, la pluie et le vent seront au menu de notre après-midi. Un grave accident hier après-midi à Boismé. Un homme de 62 ans a fait une chute d'un toit d'une hauteur de 4 mètres au lieu dit la Guirère. Victime d'un traumatisme crânien, il a été hospitalisé vers le CHU, héliporté vers le CHU de Poitiers. Puis toujours hier en début de soirée, près de Mel à Fontenil à Saint-Martin-d'Entraigues, route de Niort, un adolescent de 16 ans a perdu le contrôle de son scooter pour une raison inconnue et a fini sa course dans le fossé. Gravement blessé, il a été évacué vers l'hôpital de Niort. La Châtillonnaise à Mauléon prend forme. La future maison de retraite jouxte le vétuste bâtiment des années 70 qui héberge actuellement une petite soixantaine de résidents, lesquels déménageront en mars-avril prochain dans le nouveau bâtiment. Ce sera alors la fin de la première phase. Le chantier pourra alors basculer vers la seconde, celle qui va consister à déconstruire l'actuel EHPAD pour reconstruire un bâtiment neuf à sa place. Le tout va composer des dépissements en étoile avec 57 lits pour l'EHPAD auxquels il faut ajouter 20 lits pour le foyer de vie, actuellement situé à la Mignauderie, dans des locaux qui ne sont plus adaptés. Écoutez les précisions apportées par Marianne Simon, elle est la directrice déléguée de l'hôpital local.
Nous en sommes effectivement aux travaux de la phase 1, donc qui devrait s'achever fin février 2024. Donc ça permettra le déménagement des résidents de l'EPA, donc des 57 résidents de l'EPA qui pourront regagner des locaux beaucoup plus intéressants pour eux, avec des chambres individuelles.
Les anciens bâtiments dataient des années 70, donc on va passer vraiment d'une certaine époque à une grande modernité.
Oui, tout à fait. Le nouvel EHPAD s'inscrit vraiment dans les nouvelles orientations avec des espaces de vie accessibles aussi pour les usagers de l'extérieur. Les bâtiments actuels étaient quand même vieillissants avec des chambres doubles, pas de sanitaire dans toutes les chambres et pas de lieu d'animation non plus.
Si le coût initial qui datait de 2018 était chiffré à 9 600 000 euros, le montant final sera bien plus élevé, établi à 11 400 000. Mais le financement est bien assuré avec un doublement de la subvention de l'ARS du fait des engagements environnementaux avec notamment des panneaux photovoltaïques et un autofinancement de plus de 4 300 000, ce qui est assez remarquable, comme l'a fait remarquer Bruno Fauconnier. Le directeur du centre hospitalier Nord de Sèvres se montre très confiant sur la cohabitation entre le foyer de vie qui accueille les adultes en situation de handicap psychique et les résidents de la maison de retraite.
Il y a deux lieux très distincts, hein, un rez-de-chaussée en hébergement pour le foyer de vie, plutôt à l'étage, sauf bien sûr la salle d'animation pour l'EHPAD, deux espaces jardins distincts et puis sans doute des moments d'échange entre les deux populations. C'est ce qui est intéressant aussi dans ce projet.
Alors avec des effectifs qui vont rester stables aussi?
Oui, tout à fait. L'hôpital en tout emploie 200 personnes et il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui sont plus particulièrement dédiées à l'EHPAD.
Un personnel qui se distingue ici par sa fidélité. On a très peu de turnover.
Oui, alors ça c'est un autre des atouts du centre hospitalier de Mauléon, c'est le fait qu'on n'a pas cette pénurie de personnel soignant qu'on connaît ailleurs dans beaucoup d'hôpitaux français ou dans le monde médico-social. Donc c'est un véritable atout, ça, oui.
Et le travail de Marianne Simon a été salué par Pierre-Yves Marolo, le maire de Mauléon et de facto président du conseil de surveillance, qui se réjouit de voir enfin ce projet aboutir, qui plus est en plein centre-ville et qui va participer à sa revitalisation. Le SMUR de Thouars, toujours en pointillé, ouvert par Eclipse, puis fermé depuis 3 ans, l'antenne médicale d'urgence du centre hospitalier Nord de Sèvres, autrement dit le SMUR Thouarsé, n'a toujours pas rouvert et certaines déclarations pessimistes laissent entendre qu'il ne rouvrirait plus. Le maire de Thouars, Bernard Pénaud, pense lui que le projet de rénovation de la psychiatrie sur le site de l'ancien hôpital doit confirmer la pertinence d'un SMUR Thouarsé. Et le micro-colline de notre correspondant Dominique Hérault.
Mais ça s'adosse forcément à d'autres besoins qui sont d'ailleurs portés, à ma connaissance, par la direction de l'hôpital, à savoir qu'il y a toujours l'objectif de remettre des urgences à Thouars. C'est d'autant plus nécessaire qu'il va y avoir un pôle psychiatrique important et qu'adossé à la psychiatrie, on a besoin de médecine généraliste, somatique et d'urgence également à côté d'un service psychiatrie important. On n'attend pas forcément que l'hôpital psychiatrique soit reconstruit pour ouvrir des urgences, mais on attend plutôt des médecins urgentistes. Mais ce qui est essentiel, c'est que c'est une promesse, entre guillemets, de départ dans ce bel ensemble maintenant qui commence à prendre vie et à fonctionner comme il faut, qui est le plateau technique de Fay-la-Besse. Et la promesse, c'était qu'on ait des sites d'urgence sur Partenay, sur Fay-la-Besse et sur Troyes. Et donc ça, on l'attend, c'est plutôt les moyens humains d'urgentistes et qu'il faut mettre en place. Et ça, moi, pour moi, ça doit arriver avant pour être un peu concomitant avec la construction qui reste à faire.
Ce qui ouvre un horizon assez vaste puisque les travaux de construction du nouveau centre psychiatrique, combinés au transfert de l'Institut de formation infirmier et d'aide soignante vers l'ancien hôpital, ces travaux donc débuteraient en 2025 pour une mise en service en 2027-2028. D'ici là, la constitution d'une équipe mobile d'urgence reste en pantier. Reportage signé Dominique Hérault. La gendarmerie de Deux-Sèvres alerte sur la présence en Bocage, mais également en Gâtine, de bitumeurs anglais qui démarchent des personnes souvent vulnérables pour faire des propositions alléchantes pour bitumer les cours et les allées des particuliers. Sauf que le travail est bâclé, le bitume médiocre. Soyez donc vigilants en cas de doute. N'hésitez pas à composer le 17. Un job dating demain à Bocapo, le cinquième co-organisé par l'Aglo de B, Pôle emploi et la Maison de l'Emploi. Il va rassembler au moins 80 entreprises pour au moins 400 offres directes. Il y aura de la nouveauté avec ce que l'on appelle le job dating inversé. Quelques entreprises se sont en effet prêtées au jeu proposé par Pôle emploi à travers donc ce job dating inversé. En clair, ce sont les entreprises qui se présentent aux candidats. Explication avec Dorothée O'Neill, la directrice de l'agence Bressurèze.
L'objectif, c'était de faciliter le contact candidat-entreprise pour tous les candidats qui n'osent pas forcément, qui viennent au job dating sans aller à la rencontre pour certains. Donc là, on a proposé à quelques dizaines de demandeurs d'emploi d'être accompagnés, préparés pour le 19 octobre à cette rencontre particulière pour pouvoir avoir cette chance supplémentaire d'un contact direct.
Alors, parce qu'il y a un certain nombre de candidats qui sont assez éloignés de l'emploi, c'est compliqué pour eux. Donc sur un job dating classique, ils sont un peu perdus, hein, tout simplement.
Quand il y a énormément d'opportunités d'emploi, on ne sait pas toujours vers quoi s'orienter. Sur un job dating, on voit l'enseigne, on voit l'entreprise, mais on ne sait pas toujours ce qui se passe à l'intérieur, ni quelle activité exactement, quel poste. Là, le recruteur ou le chef d'entreprise va aller se présenter et présenter vraiment son activité et ce qu'il a envie de passer comme message à des groupes de demandeurs d'emploi.
Ce job dating aura lieu demain, jeudi à Bocapoul-Bressuire de 14 à 18h30. La troisième édition de la Cité de la Jeunesse et des Métiers part en live ce vendredi 20 octobre. Il y aura de l'effervescence cette fin de semaine dans les locaux de la CJM aux abords de la gare de Bressuire, destinée aux 11-30 ans. L'événement porté par l'Aglo de B est de nouveau co-construit par les ARJ, animateurs référents jeunesse, avec pour but de présenter différentes structures, associations et autres conseils jeunes qui peuvent leur permettre de s'impliquer dans la vie de la cité et plus largement sur le territoire de l'Aglo de B. Pierre-Alexandre Gagnant, le directeur de cette Cité de la Jeunesse et des Métiers.
La CGM qui part en live, c'est l'occasion pour les 11-30 ans de découvrir déjà le réseau d'animateurs référents jeunesse et en fait toutes les structures qui œuvrent en faveur de la jeunesse sur le territoire. Et l'idée, c'est d'avoir des petits stands d'information afin de découvrir les structures et puis des petits jeux, des petites complicités qui ont été faites par les professionnels et les bénévoles qui étaient mobilisés dans les structures. L'idée, c'est bien d'optimiser le temps de chacun, c'est-à-dire qu'à la fois les 11-30 ans, afin d'avoir une seule date et un lieu dans lequel ils peuvent retrouver toutes les informations diverses qu'ils souhaitent, et même probablement celles qu'ils n'auraient pas eu autrement. Et puis les professionnels aussi, d'avoir un lieu où ils sont garantis de trouver du monde, et de capter notamment des jeunes qu'ils ont sur leur territoire, et avec lesquels ils ne sont pas forcément encore en contact.
La CJM part en live sera également prétexte à la coopération entre les structures qui seront présentes cette année, le Refuge, Unicité, Promeneur du Net, le MRJC, les CSC de Cerisé et de Nuet-les-Aubiers, EVS, Graines de Liens, le collectif Orbite, Sans pourrin en Bocage, Scène de territoire, Passage ou encore le Plat de résistance. Plusieurs animations seront proposées tout au long de l'opération avec quelques petites nouveautés.
Il y a des nouveautés, il y a un escape game un peu particulier. On accueille cette année la charcuterie musicale qui est en fait une caravane mobile qui va permettre aux jeunes de choisir des vinyles à passer. Il y aura aussi un petit blind test auprès du public et puis des petits défis parsemés ici ou là dans la journée, notamment toujours en lien avec le réseau des animateurs référents jeunesse. Encore une fois, le but, c'est bien qu'on identifie que peu importe où on habite au sein de cet agglo, on trouve un animateur référent jeunesse près de chez soi qui permet d'accompagner sur toutes les problématiques de la vie et dans tous les domaines qu'on souhaite développer sur le territoire.
La CJM part en live, c'est ce vendredi à partir de 15h30 et toute la soirée. Il sera bien entendu possible de se restaurer sur place. Il y avait beaucoup d'émotions samedi dernier au musée de Bressuire. Le vernissage de l'expo consacré à Claude Bertrand et Anne Julio intervient en effet seulement quelques mois après la disparition tragique du sculpteur de Sévrien, considéré comme un maître en la matière. Claude Bertrand animait régulièrement des stages et laissera une place dans le paysage, une trace dans le paysage culturel local. Quelques-unes de ses œuvres sont donc exposées depuis samedi jusqu'au 12 novembre, les samedis et dimanches, dans la galerie des Arcades, aux côtés des peintures de Anne Julio. Pour la petite histoire, les deux artistes avaient déjà été associés dans la galerie, mais le Covid avait empêché les visiteurs de la découvrir. Josette Moirot est la présidente des Amis des Arts.
Claude n'est plus là, mais tous les stagiaires de Claude avaient très envie que cette exposition existe, pour lui rendre hommage en fait, parce que c'est vraiment, pour eux, c'est une perte énorme. C'était un peu leur maître. Et c'est vrai que beaucoup d'artistes sculpteurs du coin ont été son élève et sont restés souvent des amis fidèles après quelqu'un qui savait réunir les gens. Et il aimait faire la fête aussi, il rassemblait son monde autour de chez lui et dans son atelier à la Plaisanière.
Alors comment on peut définir sa sculpture justement?
Il a fait beaucoup de marbre et de schiste. Ses dernières sculptures en schiste sont des grandes femmes très stylisées qui avaient une prestance. Elles étaient hautaines, mais en même temps elles avaient un air familier. C'était pas une représentation exacte, c'était vraiment une idée de la femme. Et souvent il jouait avec le côté très lisse et le côté juste taillé sans être poncé.
L'expo consacrée à Claude Bertrand est présentée jusqu'au 12 novembre à la Galerie des Arcades à Bressuire, à découvrir en parallèle les peintures de Anne Julio. En rappel, la compagnie Zygomatique est en résidence toute cette semaine à Saint-Thomas-du-Plain. La troupe donnera ce soir à 20h à la salle socio-éducative son spectacle à succès Climax, où elle s'attaque à la question de l'urgence climatique, de l'effondrement de la biodiversité et plus largement de la survie de notre planète. L'actualité sportive en Ligue des Champions de basket, Cholet était en déplacement hier soir pour affronter les Espagnols de Tenerife. Après un bon début de match, CB n'a pas pu confirmer en seconde mi-temps et s'est incliné 95-75. Retour au championnat de France samedi prochain avec un déplacement au Mans. Des Choletais qui évolueront dans une nouvelle salle au cours de la saison 2027-2028. Cholet Agglomération a en effet voté en faveur du projet en ce début de semaine. Construit aux abords de la mairie, ce palais des sports pourra accueillir jusqu'à 6000 spectateurs pour un coût estimé à plus de 59 millions d'euros. Si CB sera le club résident, cette salle modulable sera aussi capable d'accueillir d'autres événements sportifs, mais aussi non sportifs. La quatrième journée du championnat de Pro A de tennis de table hier soir, la Romagne a décroché un joli succès lors de la réception des voisins d'Angers. Victoire 3-2. Les Romagnons avaient aligné pour l'occasion leur joker chinois Zhu Yongbin, qui s'est montré particulièrement déterminant hier soir.